Direction le diocèse de Tarbes et Lourdes avec ce week-end le pèlerinage diocésain du Jubilé de l'Espérance qui était organisé au sanctuaire Notre-Dame de Pietate. C'était ce dimanche 4 mai en présence de Mgr Jean-Marc Mica, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. Trois marches avaient été préparées au départ de l'église de Mascaras, de la cathédrale de Tarbes et de l'église de Séméac. Reportage sur place d'Anne-Rose Jankovic.
Voilà, aujourd'hui c'est une journée tout à fait exceptionnelle puisque le diocèse de Tarbes et Lourdes est en marche jubilaire dans le cadre du Jubilé de l'Espérance. Mgr Jean-Marc Mica, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, a invité tous les chrétiens du diocèse à se rendre en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Pietate à Barbazan-des-Batte. Et c'est là que nous nous trouvons depuis ce matin pour accueillir les pèlerins marcheurs qui arrivent petit à petit au gré des rythmes de marche. Ils sont partis depuis Tarbes, depuis Séméac ou Mascaras ce matin et ils arrivent petit à petit accueillis par toute une équipe qui leur propose de passer dans la chapelle et prier déjà Notre-Dame de Pietate avant le moment du pique-nique. Et nous en profitons pour vraiment découvrir l'histoire de ce lieu. Et pour cela, je suis en compagnie de Roger Bonifaci. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au micro de Radio Présence. C'est vous qui êtes là au micro de Radio Présence pour démarrer cette émission parce que vous êtes un petit peu l'expert, en tous les cas l'historien du lieu. Quand on a commencé à réfléchir à cette émission, les uns et les autres, parmi l'équipe de préparation de cette journée, les uns et les autres ont dit « Ah mais l'historien du lieu, c'est Roger Bonifaci ». Alors merci beaucoup d'être à notre micro. On entend les cloches de Pietate, voilà les conditions du direct. On va d'abord se pencher sur l'histoire du lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ici? Je crois qu'on est en 1500, donc c'est avant l'histoire du sanctuaire de Garaison, bien avant Lourdes évidemment. Et racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu à Pietate?
Bien d'abord, il faut que je vous dise que je ne suis pas l'historien du lieu, mais c'est le hasard qui fait que je suis venu à m'intéresser à Notre-Dame de Pietate parce que j'ai un lien particulier avec cette chapelle et je viens à la messe tous les dimanches à la chapelle. Alors, que s'est-il passé? Rien n'est simple. D'abord parce qu'on manque de sources. On a toujours cru, par exemple, que la chapelle avait été bâtie, comme l'indique l'inscription sur la porte d'entrée, en 1593. Et puis, dans les années 1947, il y avait un prêtre du diocèse de Tarbes qui s'appelait Jean Française et qui était membre d'une société historique, comme on faisait avant. Et à force de chercher dans les archives départementales, il a trouvé un testament dans lequel il était dit qu'une certaine dame avait donné 9 sols pour la chapelle. Et cela se passait en 1568. Donc on se retrouve 15 ans avant. Cela implique que si on donne de 15 sols, qui était une bonne somme à l'époque, en 1568, pour une chapelle, c'est qu'elle était déjà construite.
Donc, c'est qu'il y avait quelque chose, peut-être plus modeste qu'une chapelle, mais c'était déjà un lieu repéré.
On pense donc que la première fois où il y a eu quelque chose ici, sur ces lieux, c'est dans les années 1500-1550. Personne ne peut savoir, et c'est la légende. Alors, à propos de la légende, là aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'a pas de relation de la légende avant le 19e siècle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une transmission orale?
C'était une transmission orale qui a été mise par écrit par deux personnes différentes qui donnent deux versions différentes.
Qui sont très différentes?
Oui, la première version, c'était que sur ces terres-ci, il y avait une lumière qui, le soir, illuminait tout le paysage. Une lumière donc anormal pour les gens du lieu. Et puis cette lumière là a fait que les propriétaires des lieux a fait prélever de la terre parce qu'elle sortait de la terre, et en prélevant de la terre, ils ont trouvé la statue, la Pietà, à l'intérieur, donc pendant leurs travaux. Et ça, C'est la première version. Et la seconde version, c'est qu'il y avait dans le creux d'un chêne une Pietà, celle que nous avons toujours, et que cette Pietà, les habitants de Barbazan-le-Batte voulaient la ramener chez eux. Ils ont essayé pendant trois fois de suite pour la ramener, et trois fois de suite, la Pietà est revenue ici. Ah ouais. Voilà.
Il y a une histoire un petit peu similaire, je crois, du côté de Médouce.
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, c'est Mgr Laurence qui a tranché entre les deux versions. Il a pris la première version, mais au lieu de mettre des ouvriers qui venaient prélever de la terre pour amender en bas, dans la plaine, il a pris un paysan qui labourait les champs.
Alors ça, est-ce que c'est important pour la... Je ne sais pas, pour la dévotion peut-être du lieu, pour ce qui s'y vit, pour ce qui s'y passe, de savoir quelle est la bonne version au fond?
Non, absolument pas. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Je pense que ce qui est l'importance, c'est d'avoir une Pietà qui, chaque fois où le peuple a eu besoin d'elle, était là, au bord de la route, là, à attendre que les gens passent et... Chaque fois, donc...
Parce que ça, par contre, ça ne varie pas. C'est qu'une Pietà a été trouvée ici.
Voilà, elle a été trouvée ici. Et dès le début, alors il faut se rappeler qu'on sortait à la fois des guerres de religion et puis il y avait des problèmes de la grande peste noire, etc. Dès le début, des habitants sont venus ici.
Donc une dévotion immédiate.
Pratiquement.
Alors, ça veut dire aussi une foi immédiate en la Vierge.
Alors, dans les années 1500, on ne peut pas dire. Mais ensuite, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, effectivement, il y avait une très, très grande foi à la Vierge. Les gens venaient en pèlerinage ici, souvent les pieds nus. On a vu aujourd'hui un marcheur qui avait les pieds nus, mais les terrains n'étaient pas les mêmes. Soit avec des moitiés sabots, moitiés pieds nus. Enfin, il y avait toute une histoire de mortification. Et ils ne venaient pas de 5 km, ils venaient de Bernac-de-Batte, ils venaient de Barbazan-de-Batte. Voilà.
Alors, cette dévotion mariale, qui est aussi qui a fait de ce lieu un lieu de piété populaire, on pourrait dire, ça veut dire quoi? Si ça a continué, c'est qu'en venant prier la Vierge, eh bien, il recevait les grâces qu'il venait demander. Et c'est pour ça que l'histoire a continué, que la transmission s'est faite, parce que les gens qui venaient prier ont reçu les grâces qu'ils venaient de demander à Notre-Dame de Pietat.
Oui, mais cela remonte bien avant Notre-Dame de Pietat. Les comtes de Bigorre avaient déjà, par exemple, pour cri de ce qu'on appelle le cri de guerre, quand ils allaient au combat, c'est Notre-Dame de Bigorre.
Ah oui.
Voilà. Il faut savoir qu'il y a plus d'un cinquième des lieux de culte dans la Bigorre qui sont dédiés à Notre-Dame. Ça a toujours été quand même quelque chose d'important, les miracles de Notre-Dame. On en parle à Lourdes pour le miracle du château avec l'aigle du temps de Charlemagne, on en parle tout le temps. Et donc, ils venaient ici, lorsque la peste sévissait à Bernac-de-Batte, les gens sont venus ici, les pestiférés ont été guéris. Lorsqu'il y en avait à Barbazan-de-Batte, lorsqu'ils sont repartis après avoir fait leur dévotion à la Vierge, les pestiférés étaient guéris. Et il y en a eu d'autres, évidemment. On a même eu un autre miracle en présence d'un évêque, d'une jeune femme qui était totalement paralysée, qui venait du village d'Asquin, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui a été guérie.
Il y a un registre des miracles? On a trace de ces miracles?
Non, je n'ai pas trouvé. On a le nom de l'évêque, on a tout ça, mais moi, personnellement, je n'ai pas trouvé la trace.
Ni celui-ci, ni les autres?
Ni celui-ci, ni les autres.
Alors, il y a des ex-voto ici,
oui,
qui permettent de dire...
Oui, mais ce sont des ex-voto comme on en trouve beaucoup dans les lieux Mario, par exemple. Hein. Mais ce ne sont pas des ex-voto qui datent. C'est des ex-voto du 19e siècle.
Alors, comment vous expliquez que cette piété, cette dévotion à Notre-Dame du Pietat, elle est traversée ainsi les siècles? Je le rappelle, hein, on est là avant l'histoire de Garaison. Hein. 1500, c'est quand même très très loin dans notre histoire. Et puis, eh bien, cette histoire, elle a malgré tout traversé les siècles, traversé, j'allais dire, l'histoire chrétienne de la Bigorre.
Comment on explique ça? C'est le miracle de Marie. C'est le miracle de Marie, parce que il y avait d'autres personnes, d'autres protecteurs. On pense par exemple pour la peste à Saint-Roch, par exemple, il y avait une grande dévotion. On voit beaucoup de statues de Saint-Roch avec le genou découvert, son chien au pied. Mais quand même, j'allais dire, c'était les subalternes. Quand il y avait un gros problème, on s'adressait à la Vierge. Oui, c'est vraiment la Vierge qui est la consolatrice de. C'est-à-dire, moi, je pense qu'elle avait tellement souffert, et on le voit à l'intérieur, puisqu'il y a des peintures qui représentent les sept douleurs de la Vierge. La Vierge avait tellement souffert avec la passion de son fils que, bon, par analogie, les fidèles se disaient, si elle a souffert, elle peut comprendre notre souffrance. Ouais. Voilà. Et comme elle a participé aux souffrances de son fils, elle sait ce que c'est, elle va nous sauver. Et la Vierge sauve. Alors je ne peux pas dire combien il y en a eu, c'est pas possible. Il y a des personnes qui viennent tous les jours à Notre-Dame de Pietat. C'est ouvert du matin à 9h jusqu'au soir à 17h. Et moi je passe souvent, quand je vais en ville, je m'arrête prier Notre-Dame, chanter devant ça. Oui. Voilà. Et je vois beaucoup de personnes.
Alors Roger Bonifaci, on a parlé de la dévotion, voilà, de l'histoire vraiment mariale de ce lieu. Je voudrais qu'on parle de la chapelle telle qu'elle est aujourd'hui, avant de nous dire et de nous décrire ce que les pèlerins d'aujourd'hui découvrent quand ils arrivent ici. Comment elle a évolué, cette chapelle, au fil du temps, certainement des travaux, des extensions peut-être. Vous parliez des peintures murales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, de manière architecturale, comment ce lieu a évolué?
Alors, la première chose à dire, c'est qu'on ne connaît pas l'état primitif de la chapelle.
On ne sait pas si c'était un montjoie.
On ne sait pas. On sait qu'au tout début, la statue de la Vierge avait été mise dans une cabane recouverte de paille. On sait très bien que c'était recouverte de paille. Bon. Et qu'ensuite, une chapelle a été construite. Alors, comment était-elle, cette chapelle? On sait qu'elle n'avait pas de clocher, puisque le clocher est venu après. On sait que l'entrée n'était peut-être pas là, puisque l'entrée qui est d'ici date de 1885. C'est... Voilà.
On est passé des choses avant quand même.
On sait qu'il n'y avait pas la Pietat qui est sur la porte d'entrée. Ouais. Elle a été offerte par celui qui a fait faire la porte d'entrée, la nouvelle ouverture ou la réfection de la petite ancienne qui était le marquis de Castelbajac. Ouais. C'est le petit-fils du marquis de Castelbajac, c'est celui qui a fait les ornements pour la rénovation de Notre-Dame de Paris.
Ah oui, voilà. Ah, voilà. Alors il y a des liens qui sont intéressants quand même.
Qui restent là. Ouais. Voilà, donc ça c'est la première des choses qui a été faite. Et, on a construit cette... et ensuite sont venues des améliorations à partir du 19e siècle. Déjà, il faut savoir qu'elle avait été transformée en grange pendant la Révolution. Elle avait été vendue, transformée en grange. Donc, il a fallu la réparer. Et au XIXe siècle, on a refait la nef. On a rajouté la nef du nord, donc du côté de l'hôtel de Saint-Joseph. On a rajouté la sacristie que vous voyez à côté. Et ensuite... il y a eu des grandes rénovations, mais des rénovations picturales. On a refait toutes les peintures qui étaient à l'intérieur. Vatican II, enfin, même avant Vatican II, bien sûr, Monseigneur Grelier, c'était en 1934, a fait refaire tout l'intérieur avec de nouvelles peintures, une nouvelle Pietà qui est derrière l'hôtel, le maître-hôtel.
Alors, la vraie statue, la vraie Pietà, celle qui a été trouvée, elle est où?
Alors, elle se trouve dans la chapelle de la Vierge Marie.
Donc, ça n'est pas. Alors, faut bien le dire aux personnes qui arriveraient comme ça à Pietà, c'est pas celle qui est sur le tympan au-dessus de la porte d'entrée. Ça n'est pas celle qui est derrière l'autel. C'est celle qui est vraiment dans la chapelle de la Vierge.
C'est celle qui est vraiment dans la chapelle de la Vierge. Mais vous en oubliez une qui est dans la sacristie. Il y a une petite Pietà qui a eu aussi beaucoup de dévotion. Voilà. Donc, toutes les décorations ont été refaites vers les années 1935-1940, en même temps que L'entretien et puis le service de Notre-Dame de Pietate a été donné aux missionnaires de l'Immaculée Conception.
Qu'on appelle communément les pères de guérison, puisque c'était...
Ou les
MIC, pour les familiers. Alors, s'il y a eu cet essor et puis le soin de ce lieu, c'est probablement pour répondre à une demande ou à une manière d'habiter ce lieu. Il y avait beaucoup de pèlerinages. C'était un lieu qui était important à cette époque-là, donc fin 19e, début 20e.
Alors, avant la Révolution, il y avait énormément de pèlerinages. On comptait plus de 75-80 pèlerinages par an. Ce qui est quand même
énorme.
C'est énorme. Après la Révolution, ça a beaucoup baissé. On est arrivé vers une trentaine de pèlerinages après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, malheureusement, ça baisse encore. Il ne reste plus que les deux pèlerinages les plus anciens, celui de la Trinité de Bernac de Batte, puisque les habitants de Bernac de Batte ont fait le vœu de venir tous les dimanches de la Trinité. Donc c'est le dimanche de la Trinité, c'est le premier dimanche après la Pentecôte, en pèlerinage. Et ils ont encore, ils viennent en pèlerinage avec la croix de pèlerinage d'origine.
Qui date donc du 16e ou...
Oui, elle a été refaite. On a changé les bras du Christ parce que, voilà. Mais le reste est intact, voilà. Et Barbazan de Batte aussi, vient encore en pèlerinage. C'est tout, malheureusement.
Alors Roger Bonifaci, nous sommes avec vous, je le rappelle, pour découvrir et comprendre l'histoire de ce lieu, le sanctuaire Notre-Dame de Pietat à Barbazan de Batte. Et on vient d'entendre la cloche derrière. Donc vous nous parlez là des pèlerinages, de l'histoire un petit peu des pèlerinages. Aujourd'hui 4 mai, ce pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Pietate, il doit vous réjouir le cœur, puisque vous nous dites malheureusement il n'y a plus beaucoup de pèlerinages. Puis aujourd'hui il y en a un, puis il y en a un de tout le diocèse.
Il y en a un, et il fait beau, ça c'est déjà pas mal. Il y en a un, nous sommes nombreux. Et j'aimerais bien, l'espoir, c'est que ce ne soit pas simplement une tâche, mais une grande coulée de bonheur qui passe et qui ne s'arrête plus, que les pèlerinages reviennent, que la foi populaire reprenne son cours comme avant, que les gens se sentent pris avec d'autres à prier Marie. C'est très différent si on l'a pris ensemble ou si on l'a pris de façon individuelle. Je pense que l'initiative est très très bonne et que le pèlerinage diocésain s'ouvre par Notre-Dame de Pietate, bien sûr, ils vont aller également revivifier d'autres lieux de pèlerinage comme Eas, enfin comme tous les autres. Mais je pense que c'est nous qui l'ouvrons et c'est vraiment de bon augure, je pense, oui.
Alors c'est vrai que l'objectif de ce pèlerinage diocésain, enfin... c'est l'ouverture vraiment d'une démarche, d'une marche diocésaine qui va nous mener de sanctuaire marial en sanctuaire marial tout au long de l'année pastorale. Alors c'est un souhait de notre évêque, Mgr Jean-Marc Mica, dans le cadre de l'année jubilaire. Nous sommes pèlerins d'espérance et avec Marie, eh bien, nous cheminons avec cette espérance plein le cœur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pèlerins qui sont à Pietate, ils sont invités, vous aussi Roger Bonifaci, à aller le 5 juillet à Garaison, à la fin du mois de juillet à Poilin, au mois de septembre, le 6 septembre à Eas, et puis à la fin du mois d'octobre au sanctuaire de Lourdes du 18 au 21 octobre. Ça, c'est important pour vous que eh bien, ce rendez-vous aujourd'hui à Pietate, il s'inscrive vraiment pas seulement dans la vie de ce sanctuaire, mais vraiment dans un rayonnement marial du diocèse, en lien avec les autres lieux.
Oui, il me semble que le fait d'avoir une série de pèlerinages démontre d'abord la vitalité de notre diocèse. On voit des jeunes qui sont là, qui sont vraiment des pèlerins d'espoir, d'espérance pour la vie religieuse, pour la spiritualité catholique. Et je pense que quand je vois le visage heureux des gens qui viennent, qui arrivent ici tout à l'heure en chantant, les gens qui vont se confesser, les fidèles, Bon, ça ne peut pas s'arrêter.
Ça ne peut pas laisser les gens intacts.
Non, on ne peut pas les laisser. Ils sont obligés d'être bouleversés.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient chercher à Pietad? Vous nous parliez du début, alors on venait chercher la guérison. Bon, aujourd'hui, alors on pourrait parler du coronavirus, mais bon, en tous les cas, il n'y a plus la peste. Qu'est-ce que les gens peuvent venir chercher? Vous qui connaissez bien ce lieu, vous qui connaissez bien Notre-Dame de Pietad, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Pour quelles raisons ils peuvent venir chercher du réconfort là, devant Marie?
Eh bien, je leur dirais que la peste, le choléra qu'il y avait auparavant a changé d'endroit. Maintenant, elle est au fond de nos cœurs. Elle est surtout au fond de nos cœurs. Et que Marie, elle, est toujours là pour les écouter, pour les entendre. Et que lorsqu'ils passent, même la nuit, l'autel est ouvert. Et on voit de l'extérieur que Marie est là. Et elle nous tend la main. Alors moi, je n'ai qu'une chose à leur dire, c'est prenez votre temps, garez-vous. Venez déposer votre fardeau aux pieds de Marie. Elle va le transmettre au Christ, et le Christ, c'est la miséricorde. Allez jeter votre misère dans la miséricorde du Christ.
Voilà, la miséricorde, c'est très lié à l'espérance, évidemment. Allez, la dernière question, Roger Bonifaci. Vous, personnellement, qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à ce lieu? Pourquoi vous avez cherché comme ça, comme vous l'avez fait, comme vous nous l'avez expliqué, l'histoire de ce lieu? Qu'est-ce qui vous interpelle ici?
Eh bien, d'abord, ce qui m'interpelle, c'est ce sentiment de sécurité, ce sentiment de tendresse, de bonheur. Lorsqu'on arrive, on ne ressort jamais pareil. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Je suis arrivé un jour ici alors que rien ne me prédisposait. Je n'étais plus dans la religion catholique. Et Marie m'attendait au bord de la route.
Eh bien, Marie attend les auditeurs de Radio Présence au bord de la route. Nous sommes à Barbazan-des-Battes, ce sanctuaire Notre-Dame de Pietad. Il est vraiment au bord de la route, comme vous dites. On est à 10 minutes en voiture de Tarbes, c'est ça, tout près de Séméac, sur la route de Tournailles. C'est facile d'accès, donc chacun est bienvenu. Cette chapelle est ouverte tous les jours.
Oui, de 9h le matin jusqu'à 17h le soir.
Avec une messe célébrée chaque dimanche.
Une messe chaque dimanche à 18h.
Voilà, bien le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Roger Bonifaci, pour l'histoire, pour votre témoignage et pour votre souci de transmission. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, bonjour Jean-Luc Doléac.
Oui, bonjour Anne-Rose.
Voilà, je vous laisse vous installer, c'est le stand de Radio Présence, voilà. Ici au sanctuaire Notre-Dame de Pietad à Barbazan-des-Battes. Alors Jean-Luc, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cette journée de pèlerinage. Vous avez mené une des trois marches, celle qui partait de Mascaraz, je crois. Oui. Vous nous racontez un petit peu, d'abord peut-être même les préparatifs, les quelques jours qui ont précédé. J'imagine que vous n'avez pas chômé.
D'autres, bonjour à tous. D'autres ont dû en parler déjà avant moi. Et bien, déjà, le temps. Le temps était un de des gros soucis avec le père Bertrand et l'équipe qui s'est occupée de la préparation du pèlerinage. Nous avions essayé d'anticiper au mieux en dégageant des espaces pour pouvoir se rapatrier à l'abri. Mais aujourd'hui, par chance, il fait bien beau. Tout le monde est attablé sous les arbres de Pietad et pour le pique-nique, et c'est un pur bonheur. En ce qui concerne la marche qui est partie de Mascaraz, il y avait 68 adultes et 7 enfants. Donc pour les enfants, il avait été préparé par les catéchistes de l'EP de Tournailles un petit quiz avec quelques récompenses pour leur permettre de vivre ce pèlerinage un peu plus sereinement et avec joie. Qu'ils aient surtout un bon souvenir et qu'ils aient envie plus grande de revenir. C'était sur ça notre réflexion.
La transmission.
Voilà, la transmission en se disant, parce que ça c'est des souvenirs qui restent, comme le pique-nique. Et puis j'ai vu que dehors, derrière, dans la cour de Pietad, à l'intérieur, il y a aussi une table avec des jeux pour eux. Donc tout à l'heure, on s'occupera d'eux. Parce que l'important, nous on sait, mais les enfants doivent découvrir. Et je pense que toute leur vie, ils se souviendront de leur premier pèlerinage. Voilà, on a tout fait pour les accompagner.
Voilà, ben alors en tous les cas, bravo, parce qu'effectivement, il y a toutes les générations qui sont rassemblées ici, et la journée n'est pas terminée, hein, puisqu'au moment où nous nous parlons, c'est l'heure du pique-nique, vous l'avez dit, les gens sont attablés, et puis tout l'après-midi, alors d'abord des activités spirituelles, puis ensuite la messe à 15h, donc voilà, il y en a pour tous les âges, et tout le monde peut trouver sa place. Jean-Luc, je l'ai dit, vous faites partie de l'équipe, hein, vous êtes l'une des chevilles ouvrières, et alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce rendez-vous à Pietad est le premier d'une longue série, puisque jusqu'au pèlerinage à Lourdes du 18 au 21 octobre. Il y aura d'autres étapes dans d'autres sanctuaires, Mario. Comment vous avez vécu ça, les premiers de la série? Ça veut dire que bien, il faut imaginer, il faut inventer. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il faut quand même répondre à la proposition de Mgr Mika. Quelles ont été vos priorités pour organiser cette journée? Quels soucis vous avez eu?
Alors, je vais parler avec à peine un peu de recul. C'est que quand on se rencontre pour la première fois, on découvre, parce que moi je ne connaissais pas tout le monde dans l'équipe autour du père Bertrand, et on s'aperçoit qu'il y a une multitude de compétences et dont la préparation est tout à fait simple, puisque chacun dans son domaine de compétences essaie de donner le meilleur de lui-même. Donc, j'en parlais à mon épouse hier soir et je lui disais qu'est-ce que c'est facile de travailler avec des gens motivés, parce que l'idée se lance, eh bien, moi je peux faire ça. Donc c'est parti d'ici, en plus à Piétade. Bon, il y a eu un travail quand même de nettoyage, pas de la chapelle, mais des extérieurs qui étaient assez importants pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Et tout le monde a fait ce qu'il avait à faire et on voit le résultat aujourd'hui. Et honnêtement, hier soir avec le père Bertrand, lorsqu'on préparait les dernières petites choses, on disait c'est déjà, même s'il pleut, s'il n'y a pas trop de monde, mais bon, il y a du monde et il ne pleut pas, donc. Mais on disait ça, déjà c'est un succès.
Vous aviez prévu le pire, puis c'est le meilleur qui arrive.
Voilà, comme quoi. Voilà. Et c'est un succès déjà rien que pour cette rencontre entre des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas. Mais voilà, on a tous bien fonctionné ensemble.
Alors, c'est beau ce que vous dites parce que, on le sait, Mgr Mika a l'occasion de le dire régulièrement au micro de Radio Présence, mais l'enjeu de tout ça, bien sûr, c'est d'être ensemble des pèlerins d'espérance, c'est de se donner rendez-vous, c'est de prier ensemble, c'est de vivre des moments ensemble. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'est la communion diocésaine.
Voilà, mais exactement. C'est se retrouver sur des... Bon, la prière, ça, mais chacun fait la sienne à des moments qu'il souhaite, dans des endroits où il se sent bien. Mais savoir qu'à côté de soi, on a des gens qui réfléchissent, qui pensent et qui prient comme nous, ou à peu près. Mais voilà, c'est la communauté est là, on ne se sent pas seul et on est heureux. Ce que je dis quand je sors d'un office, quel qu'il soit, je sors heureux. Donc, et je vois des gens heureux, donc l'essentiel est là, et voilà. Avant de partir, justement pour parler d'être ensemble, j'ai lu, avant de partir marcher, j'ai proposé à tous les pèlerins qui étaient avec nous de dire ces mots qui étaient dans la bulle d'indiction du pape François, à savoir, vous me permettez ?
Ah, bien sûr.
Voilà. Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Oui, nous devons déborder d'espérance pour témoigner de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur. Pour que la foi soit joyeuse, la charité enthousiaste, pour que chacun puisse donner, ne serait-ce qu'un sourire, un geste d'amitié, un regard fraternel, une écoute sincère, un service gratuit, en sachant que, dans l'esprit de Jésus, cela peut devenir une semence féconde d'espérance pour ceux qui la reçoivent. Une fois lu ça, nous avons tous échangé un sourire avant de marcher. Donc déjà, la victoire était là, puisque c'était que pouvait être qu'une réussite, on partait dans la joie.
Voilà. C'est gentil, merci de partager avec nous ces mots du pape François, dont nous avons célébré les obsèques il y a quelques jours maintenant, et puis à la veille de l'ouverture du conclave. Merci beaucoup de nous rappeler ces mots du pape François. Une dernière question pour vous, Jean-Luc Doléac. Quand on est comme ça dans les préparatifs, dans l'organisation d'un pèlerinage diocésain, parce que notre évêque nous l'a demandé, bon, on a des soucis logistiques, faut bien dire quand même, on va pas se mentir, le temps, l'organisation, tondre l'herbe, etc. Est-ce qu'on arrive malgré tout à se dire, mince, moi aussi je suis un pèlerin d'espérance, et moi aussi je vais vivre le pèlerinage en étant avec les autres pèlerins d'espérance?
Plus encore, plus encore.
Ah ben oui, la logistique ne prend pas le dessus.
Ah ben non, pas du tout, au contraire, parce qu'on se sent faire partie d'un tout. Et bien, chacun apporte sa pierre, on l'a déjà dit. Et non, au contraire, c'est la logistique. C'est vrai que quand on a su que le Mgr Mika prévoyait ses pèlerinages, honnêtement, personnellement, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a pris?
Ouais, et vous savez que Mgr Mika écoute Radio Présence, hein, alors
ouais, bon. Mais tant pis.
On vous entend.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a appris? Parce que c'est beaucoup de choses, c'est sûrement beaucoup de choses à faire, mais tout compte fait, on voit que lorsque les équipes sont soudées, et on peut le vivre, et je le vis à l'instant, et je vais le vivre jusqu'à la fin de cette journée avec beaucoup de bonheur.
On vous souhaite une très belle journée de pèlerinage, et puis vous voyez, c'est les cloches de Piétade qui sonnent la fin de notre interview. Merci Jean-Luc Doléac.
Au revoir Anne-Rose.
Je m'appelle Adrien Bertrand, je viens d'Orlex, je fais partie de la paroisse Sémé à Coréan, Et voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là.
Alors, au sujet de cette journée de pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-de-Piétat, vous avez participé, vous, à la marche depuis le départ de Séméac. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette matinée de marche ?
On a fait quelques stations avec des prières. Et puis, nous sommes en train d'arriver. Là, je fais partie des premiers.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu participer aujourd'hui à cette journée de pèlerinage diocésain ?
Pour moi, cette année est importante parce que je passe ma confirmation, je suis catéchumène. Et donc, je pense que c'est important de faire acte de pénitence, de venir prier avec la paroisse, avec tout le monde, de faire corps avec tout le monde afin de pouvoir montrer qu'on est encore présent, qu'on existe. Voilà.
Alors, vous avez donc, vous allez recevoir le sacrement de la confirmation à Pentecôte. Un petit mot sur ça quand même, parce que des catéchumènes, il y en aura peut-être quelques-uns aujourd'hui, mais on est content de vous avoir au micro de Radio Présence. Vous pouvez nous confier en quelques mots ce parcours de catéchumène ?
Alors, moi, ça a commencé il y a quelques années. Ma conversion date d'il y a 5 ans à peu près. Et j'étais déjà baptisé, j'ai déjà eu ma première communion quand j'étais petit, mais ma famille n'étant pas très pratiquante, je me suis éloigné de tout ça. Et d'une certaine manière, lorsque je l'ai appelé à l'aide, il est venu. Et donc, je sens cet appel pour moi de la confirmation parce que j'aime mon Seigneur et voilà, je crois que c'est important de grandir dans la foi, dans l'Église et dans la connaissance de mon Seigneur.
Ben merci pour ce témoignage. Peut-être pour terminer, un mot sur donc ce pèlerinage aujourd'hui qui s'inscrit vraiment dans le jubilé de l'espérance. C'est le premier d'une longue série puisqu'il y aura jusqu'au mois d'octobre, d'autres rendez-vous dans d'autres sanctuaires mariaux du diocèse de Tarbes et Lourdes. Pour vous, être aujourd'hui pèlerin d'espérance, ça veut dire quoi ? En tant que catéchumène, ça résonne comment dans votre cœur ?
L'espérance de l'amour, l'espérance de la paix dans ce monde où il n'y a plus grand chose qui tient debout. Je crois que la foi en Dieu est importante, de montrer qu'il y a encore de l'espoir justement auprès des hommes, parce que j'entends beaucoup de gens dire que les hommes ne valent pas mieux que les animaux, etc. Je crois que rayonner comme ça de la lumière du Christ, ça fait du bien au monde aussi.
Merci beaucoup pour votre témoignage et belle journée de pèlerinage.
Merci à vous aussi, au revoir.
Alors Pierre, vous venez d'arriver au sanctuaire de Piétat après deux bonnes heures de marche. Oui. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé cette marche, la première étape de la journée de pèlerinage ?
Très bien, disons que le groupe a prié tout le long de la démarche. On a fait des pauses qui étaient prévues, on a chanté et l'ambiance était très sympathique.
Vous êtes parti de Séméac avec les marcheurs de Séméac, mais vous venez d'où ?
De rien, à côté, juste à côté. Voilà.
Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui, alors d'avoir fait cette marche et puis de venir vivre ce pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Piétat ?
D'abord parce que c'est un pèlerinage vis-à-vis d'un lieu qui est considéré comme saint. Et ensuite, c'est qu'il faut que les églises sortent, que les chrétiens sortent de l'église et qu'on les voit dehors. Et pas qu'ils enfermés dans les églises, dans le bâtiment, bien sûr. Hein, voilà.
Donc pour vous, c'est aussi d'avoir marché le long des chemins, le long des routes, c'est aussi un témoignage ?
Bien sûr, c'est un témoignage, une démarche personnelle, en commun, et puis en dehors des quatre murs des églises.
Ce rendez-vous au sanctuaire de Piétat s'inscrit dans les rendez-vous proposés par notre évêque, Mgr Mika, dans le cadre du jubilé de l'espérance. C'est le premier d'une longue série, on a rendez-vous dans d'autres sanctuaires mariaux du diocèse jusqu'au mois d'octobre. Pour vous, ça veut dire quoi, être pèlerin d'espérance ? Aujourd'hui, vous êtes pleinement pèlerin d'espérance avec les autres chrétiens du diocèse, mais pour vous, personnellement, ça veut dire quoi ?
D'abord qu'il faut espérer, parce que quand on voit le monde comme il est aujourd'hui, on a quand même des doutes dans tout ce qui peut se passer. Donc il faut avoir des confiances. Il y en a un, il y a très longtemps, il a eu des confiances. Il en est mort sur la croix, mais il en est ressuscité, a priori. Donc c'est une démarche qui est similaire, et référence à cette démarche-là, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Donc c'est quand même exceptionnel.
Merci pour votre témoignage, Pierre. Bon pèlerinage.
Également, merci, au revoir.
Je m'appelle Alice Biradon, j'habite Ciotat. J'avais décidé avec le groupe de l'aumônerie de Castelmouli de faire la marche de Mascara à Pietà, puis je n'ai pas pu compte tenu d'un petit problème de santé. Voilà. Mais je suis heureuse de me retrouver devant cette chapelle. Et la première personne que j'ai rencontrée, c'était Monseigneur Mika. Quelle chance j'avais!
Ça, c'est un sacré comité d'accueil.
Ah, tout à fait. Le soleil est là. Et en rentrant, une grande émotion. Parce que c'est la petite chapelle où je me suis mariée le 21 décembre 1963. Et j'ajoute que je suis veuve depuis 23 ans. Donc, encore plus, je me sens plus qu'émue d'être là.
Ah oui, alors là, on comprend cette émotion. Mais depuis, vous étiez revenue à Pietat? Vous y venez régulièrement?
Je n'y revenais pas régulièrement et souvent la chapelle était fermée. Et comme je pratiquais plus sur Ciotat et sur Bagnères, voilà, mon chemin, ce n'était pas Ciotat-Tarbes. Je regrettais, mais je ne le faisais pas. Et quelle joie aujourd'hui d'être ici. Et merci Anne-Rose d'être là.
Ah ben ça c'est gentil. Alors encore une petite question Alice. En 1963, oui. Quand vous avez fait le choix de vous marier ici avec votre époux, pourquoi avez-vous fait ce choix? Vous connaissiez, vous étiez déjà touchée par l'histoire de Pietat ou vous viviez ici ou pas loin?
Non, tout simplement... Il fallait se marier pour vivre avec celui que l'on aimait. Ce n'était pas possible différemment. Un mariage, un grand mariage, ce n'était pas possible non plus compte tenu des deux familles. Donc, ce que l'on voulait, c'était vivre ensemble. Et on a choisi la petite chapelle de Ciotat, à petit effectif, voilà. Le nom de l'abbé, je ne m'en souviens pas, qui nous avait bénis. Mais nous étions très heureux dans cette petite chapelle.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce lieu, est-ce que vous pourriez, avec vos mots, avec les souvenirs que vous avez, on comprend, c'est un petit lieu, donc il y a une dimension familiale, mais comment vous décririez ce lieu qui est un sanctuaire marial hein, en Bigorre? On en a plusieurs, mais voilà, Notre-Dame de Pietat à Barbazan-de-Batte, c'est un de nos nombreux sanctuaires mariaux. Pour vous, qu'est-ce qu'il a de touchant, ce lieu?
Déjà le parc, puisque ça fait quelque temps que je n'étais pas venue, dégagé, propre, net. Pour moi, il était un petit peu plus, un peu plus triste, un peu plus lorsque j'étais venue. Et la chapelle beaucoup plus claire. Ou bien, est-ce que ce sont mes yeux qui la voient plus claire? Peut-être qu'elle n'a pas beaucoup changé par rapport à 63, mais en tout cas, je la trouve beaucoup plus belle.
Ah, eh ben merci beaucoup Alice pour votre témoignage, votre histoire et puis l'espérance qu'on entend dans votre voix. Merci beaucoup. Merci. Madame Villemur, alors vous vous êtes mariée, vous aussi, je crois,
oui.
Ici dans cette chapelle du sanctuaire Notre-Dame de Pietat. Racontez-nous cette belle histoire. Oui.
Nous nous sommes mariés le 29 octobre 1966 et c'est le père Verdal qui a célébré notre mariage.
Et pourquoi avez-vous fait le choix de cette chapelle pour vous marier?
Parce que nous dépendions de Pietat, nous habitons Angos.
Ah, donc Angos, c'est un petit village juste à côté.
Juste à côté, voilà. Et comme le prêtre était ici, c'était plus facile et puis la chapelle était plus grande, nous étions nombreux, nous avons été très bien reçus et bien préparés pour le mariage.
Alors, racontez-nous un petit peu, vous qui habitez donc encore tout près hein, de cette chapelle Notre-Dame de Pietat, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que c'est un lieu où vous venez souvent?
Ah oui, c'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu très sain, nous y sommes bien, nous sommes... Autrefois, il y avait les prêtres, on venait les aider, les voir souvent. Maintenant, ils ne sont plus là, mais bon...
C'est un lieu qui est cher à votre cœur.
Qui est cher à notre cœur, oui. Voilà.
Aujourd'hui, ce pèlerinage diocésain, c'est une première, je crois, en tous les cas. On n'a pas vu depuis très longtemps.
Pas aussi important, mais chaque année, il y avait des pèlerinages de la vallée, de Bernac, Barbazan, tout ça, qui venaient.
Les villages autour.
Les villages autour, voilà, chaque année. Et ça a toujours été bien célébré et bien fréquenté. Il y a toujours eu du monde à Pietate.
Il y a toujours eu du monde et aujourd'hui, vous voyez, au moment où nous nous parlons, les marcheurs arrivent, les premiers marcheurs arrivent. Eh bien aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment du monde et du monde de toute la Bigorre.
Toute la Bigorre, ça fait plaisir, voilà.
Merci beaucoup, merci. Madame Villemur. Belle journée de pèlerinage. Voilà les premiers pèlerins qui arrivent. Patrick Bornea, installez-vous. Hop, voilà. Formidable. Patrick Bornea, vous arrivez, vous êtes parmi les premiers pèlerins marcheurs arrivés à Pietate. Comment s'est passée cette marche?
Déjà, elle s'est passée dans une bonne humeur et puis avec un temps magnifique. Contrairement à ce qu'on avait envisagé pendant toute la semaine, on a bénéficié d'un soleil, d'un temps frais, suffisamment de soleil pour nous réchauffer et puis de nous réchauffer le cœur, bien évidemment. On a chanté aussi un petit peu, on a prié, on arrive le cœur léger.
Vous avez marché avec des gens que vous connaissiez déjà ou il y a aussi eu cette dimension de rencontre?
Il y a eu les deux. Il y a quelques personnes qu'on connaissait, puisqu'on a de Bagnères, on était 5 ou 6 ou 7 ou peut-être une dizaine. Mais il y a aussi des gens qu'on ne connaissait pas et dont on a fait connaissance au gré de... on a marché depuis 9h30 quand même, donc ça fait 2h. Bon, il y a eu une petite pause en silence. Entre deux haltes, il y avait une pause qui a été... Enfin, ce n'était pas une pause, on a marché en silence entre deux haltes. Et ça aussi, c'était porteur de méditation.
Donc à la fois du recueillement et puis aussi un côté festif.
Oui, un côté joyeux plus que festif, voilà, tout à fait, oui.
Est-ce ce sanctuaire de Pietate, vous le connaissez déjà?
On y est venu 2-3 fois, on le trouve un peu sombre, on y est rentré alors qu'il n'y avait personne, donc aujourd'hui ça va être une grande nouvelle pour nous.
Voilà, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui pour voir ce sanctuaire de Pietate sous un autre jour.
Ah, je suis surtout venu à l'appel de Monseigneur qui nous a proposé quatre sorties que je ne pourrais pas faire, en particulier celle de septembre parce qu'on ne sera pas là. Mais les trois autres, c'est avec plaisir que je m'y rendrai, oui.
Ah bah alors là, merci de m'avoir tendu la perche parce que vous me permettez de redire que ce rendez-vous aujourd'hui au sanctuaire Notre-Dame de Pietate est le premier d'une série. Hein. Donc on a bien compris que pour vous, ça c'était important aussi d'être pèlerin d'espérance, pas juste aujourd'hui pour aller à Pietate, mais toute l'année.
Oui.
Merci beaucoup Patrick, bonne journée, bon pèlerinage.
Merci à toi.
Alors, bonjour Aline.
Bonjour.
Alors, vous aussi, vous faites partie des premiers marcheurs qui arrivent au sanctuaire Notre-Dame de Pietate en ce jour de pèlerinage. Dites-nous comment ça s'est passé, cette marche.
Déjà, on est agréablement surpris de la météo. On a eu un temps magnifique. On a eu un groupe assez important, des gens qui venaient d'un peu partout, Bagnères, Barbazan de Batte, de tout le secteur de Tournai. Et on a marché dans des conditions très favorables.
Voilà, donc favorable aussi à la prière, favorable à la marche et favorable au recueillement.
Mais ça avait été préparé bien avant, donc il y avait des étapes, 4 haltes prévues avec une prière, une récitation de prière et ensuite un chant. Donc on s'est arrêté 4 fois avant d'arriver ici.
Pourquoi c'était important pour vous aujourd'hui de participer à ce pèlerinage diocésain au sanctuaire de Pietate?
En même temps, c'est un sanctuaire que je connais depuis que je suis toute petite.
Oh, bah alors là, racontez-nous. Vous habitez pas loin?
J'habite le village à côté, Angos. Donc j'ai toujours connu la chapelle de Pietate et à l'époque, on y faisait des pèlerinages. Par secteur, dans les Hautes-Pyrénées, on faisait un pèlerinage à Pietate régulièrement. Tous les ans, il y avait un pèlerinage. Et d'autre part, je fais partie de ceux qui se sont mariés à Pietate.
Alors là, aujourd'hui, vous êtes la troisième. Hein. Alors, la pêche est bonne. Hein. Vous êtes la troisième personne à raconter ça. Donc ça c'est quand même... ça doit être un événement marquant quand même dans votre vie, d'avoir célébré votre mariage ici, dans ce lieu qui est à la fois modeste, il faut bien le dire, et en même temps qui a un rayonnement assez surprenant.
Oui, tout à fait. C'était mon vœu, parce que en fait, j'habite au village d'Angol, j'aurais pu le faire chez moi, mais oui. Je venais de voir mes grands-parents, donc j'avais envie de... Et puis c'était forcément Pietate qui s'imposait à moi. Voilà. J'ai même fait du caté à Pietate à l'époque. Voilà.
Est-ce que vous diriez que ce lieu, eh bien, il fait partie de votre, d'abord de votre vie familiale, de votre histoire personnelle et de votre parcours de foi?
Oui, inévitablement. Avec les prêtres qui étaient là à l'époque, les prêtres de Garaison, ils nous ont beaucoup accompagnés, beaucoup aidés. Et moi, personnellement, ils m'ont beaucoup aidé dans mon chemin de foi. Oui, forcément, inévitablement.
Au début des marches ce matin, certains pèlerins disaient « Mais ben voilà, moi j'habite à Tarbes, ou pas très loin. » Alors Tarbes, c'est pas très loin du sanctuaire de Pietate. Et puis, ils disaient « Mais on connaît pas, on n'est jamais là au Pietate, on savait même pas. » Et donc, on participe aujourd'hui eh bien, pour découvrir un petit peu ce lieu. À vous, Aline, ça doit vous faire vraiment plaisir que des gens du diocèse, de la Bigorre et des Quatre-Vallées viennent jusqu'ici découvrir l'histoire de ce lieu que vous connaissez si bien.
Mais bien sûr. Mais après, il faut dire qu'on subit la proximité avec Lourdes. Donc, il y a des chapelles périphériques qui sont moins connues ou moins fréquentées. Mais Pietate a quand même été relativement fréquenté, même encore. Il est ouvert régulièrement par une personne tous les jours, il est ouvert. Donc, on voit encore quand même beaucoup de personnes qui s'arrêtent. Même des chemins, des routes, des personnes qui font la route, qui ne sont pas forcément de la région, mais qui découvrent cette chapelle et qui s'arrêtent.
Bien sûr, oui.
Voilà. Mais pour moi, personnellement, c'est important. Pietate, c'est important dans ma vie, et dans ma vie de foi, dans ma vie personnelle et dans ma vie familiale.
Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Aline. Attention en quittant le stand de Radio Présence.
Voilà, nous étions dans le diocèse de Tarbes et Lourdes au sanctuaire Notre-Dame de Pietate et à côté de Tarbes sur la commune de Barbazan-des-Battes puisque ce dimanche 4 mai, plusieurs centaines de diocésains ont participé au pèlerinage diocésain du Jubilé de l'Espérance. Un grand merci à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé ce reportage.